le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, près d'un mois après sa nomination, le coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola, David Fosli, opte pour une stratégie d'anticipation. Il a dit jeudi dernier à Beni, c'était au cours d'une conférence de presse. Un demi-million de réfugiés vivent en RDC dans des conditions plutôt difficiles, affirme le HCR à l'occasion de la journée des réfugiés célébrée jeudi 20 juin. Le HCR précise aussi que plus de 800 000 réfugiés congolais ont trouvé asile à l'extérieur et nombreux veulent rentrer au pays. La représentante régionale de cette agence onusienne est l'invitée du magazine des Nations Unies. Enfin, le partenariat UNPOL, composante police de la MONUSCO, police nationale congolaise, se porte bien. Un lot de matériel informatique a été remis à la PNC cette semaine. Objectif, appuyer la formation des cadres et officiers de la police pour sa montée en puissance et sa mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens. Des détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de votre fidélité. Il faut passer de la chasse au virus à l'anticipation des endroits où il pourrait trouver refuge. C'est la nouvelle approche qu'adopte l'ONU dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans les régions de Beni-Boutembo et Litouri depuis août dernier et qui a causé 1470 décès dont 1376 confirmés. Le coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à cette épidémie, David Fosli, l'a annoncé au cours de la conférence de presse tenue jeudi 20 juin 2019 à Beni. Des détails avec Honoré Missinakalala.
Le représentant spécial adjoint en RDC a annoncé la mise en place d'un système dense, organisé et coordonné pour une réponse rapide et adaptée. Nous réalisons une cartographie des zones où nous manquons d'informations. Nous travaillons à définir comment garantir la surveillance du virus et surmonter tous les obstacles qui peuvent entraver l'accès aux zones dans lesquelles le virus pourrait se cacher, a-t-il indiqué au cours de la conférence de presse de Beni. Le travail est en train d'être fait avec la Banque mondiale afin de s'assurer que les ressources mises dans la riposte soient utilisées de façon responsable, à l'endroit qu'il faut et au moment qu'il faut, a encore signifié David Gressley. Cette nouvelle approche, selon le coordonnateur de l'ONU, va aussi mettre l'accent sur l'écoute des préoccupations des communautés vivant dans les zones affectées, mais aussi sur des réponses appropriées sous la direction de l'UNICEF. La résistance communautaire et les violences sont les principaux obstacles dans la riposte contre Ebola évoquée par David Gressley au cours de cette conférence de presse.
Les enfants congolais appellent le gouvernement et l'UNICEF à se pencher davantage sur l'amélioration des droits de l'enfant en RDC, droits mis en mal par la malnutrition, les maladies telles que la rougeole et Ebola, les conflits à la fois communautaires et armés et dont les enfants sont les premières victimes. Cet appel a été lancé lundi à Kinshasa par le président du comité provincial des enfants sans frontières de Kinshasa. C'était au cours de la cérémonie commémorative de la journée de l'enfant africain. Un reportage, Jean-Pierre Elali Koko.
Dans son adresse, l'enfant Aristote Mapuya Bolinga, président du comité provincial d'enfants sans frontières, a brossé un tableau sombre de la situation des enfants en RDC, d'où son appel au gouvernement et aux partenaires dans l'UNICEF.
Au gouvernement d'améliorer la prévoyance des situations d'urgence et la réactivité en faveur des populations touchées avec des actions prioritaires pour les enfants. Aux partenaires d'intensifier l'aide humanitaire en RDC.
L'appel des enfants semble avoir été capté par les différents responsables. D'abord, les représentants de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder.
La journée de l'enfant africain que nous commémorons ce jour est également l'occasion de réaffirmer la nécessité de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant à tout moment et en toutes circonstances.
Et puis Madame Chantal Safou, ministre du Genre.
Les gouvernements congolais saisissent cette occasion particulière pour interpeller tous les acteurs sur la situation des enfants et de stimuler les initiatives pour combattre les fléaux qui affectent leur vie, réaffirmer et évaluer les niveaux de mise en œuvre des engagements que la RDC a pris devant la communauté internationale et africaine par la ratification des principaux instruments juridiques.
La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année depuis 1991 en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche pour leur droit à Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976.
Remise en mercredi dernier du matériel informatique et accessoire et des clés des installations sanitaires réhabilitées à la police nationale congolaise au commissariat général de la PNC ici à Kinshasa. C'est le commissaire de la composante police de la MONUSCO, le général Awale Abdounazir, qui a remis ce don au commissaire général de la police nationale, le général Dieudonné Amouli. C'était au cours d'une cérémonie en présence des officiers supérieurs et cadres de la PNC. Jean-Pierre Lali Koukoua était témoin de l'événement.
C'est un premier lot de la composante police de la MONUSCO constitué des 23 ordinateurs dernière génération, des crans d'ondulaires et d'autres accessoires. Le général Awale Abounassir l'a remis symboliquement au commissaire général de la police nationale congolaise.
Ce lot de matériel informatique est essentiellement dédié à la partie formation de la police nationale congolaise pour doter ces structures qui travaillent sur la question de formation de bases de données. La police MONUSCO s'engage à vous accompagner, à ce que ces structure-là et des bases de données fiables qui demain pourront être utilisées dans les différents cadres des différentes formations, non seulement des personnels formés mais également des personnels formateurs. C'est quelque chose qui est très important. Comme toute institution, la police nationale congolaise laissera pour les prochaines générations.
Pour sa part, le général Dieudonné Amouli a exprimé sa reconnaissance à la MONUSCO et souhaité que le partenariat avec la mission perdure.
La police de la MONUSCO demeure pour nous un partenaire privilégié. Ce partenariat est en train de poser des actes palpables. Ce n'est pas pour la première fois que nous recevons ce genre de matériel de la MONUSCO. Dernièrement, c'était à Kasangoul, à Goma, à Bukavu, à Bunia. Tout ce que moi je peux souhaiter, que ce partenariat continue à perdurer.
La composante police de la MONUSCO a réhabilité les installations sanitaires du commissariat provincial de la police nationale congolaise et celle de la direction générale des écoles de formation de la PNC à Kinshasa. Les clés de ces installations ont été également remises à cette circonstance.
Restons toujours dans le cadre des activités de l'UNPOL. Environ 50 cadres et officiers de l'inspection générale de la police nationale à l'école du savoir, ceci à la faveur d'un séminaire de formation de 3 jours organisé par l'inspection générale de la police avec l'appui financier et matériel de la MONUSCO. Le thème de cette formation a été centré sur l'audit basé sur le risque dans le secteur public. Le coup d'envoi a été donné mercredi à Kinshasa conjointement par le général Awale Abdounazir, chef de la composition police de la MONUSCO et le secrétaire général au ministère de l'Intérieur en présence du général Dieudonné Amouli, commissaire général de la PNC. Le général Awale Abdounazir donne toute l'importance de cette formation. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Ce présent séminaire sur l'audit basé sur le risque dans le domaine public est à l'initiative de l'inspection générale de la police nationale congolaise dont la police MONUSCO s'est associée pour mettre en œuvre ce séminaire de renforcement de la police. La police MONUSCO accorde une importance capitale quant au renforcement des capacités de manière générale et particulièrement pour les inspecteurs de l'inspection générale. L'inspection étant un outil ou des lieux de mettre en place des mécanismes pour une police nationale plus professionnelle, plus moderne, plus professionnelle, respectueuse des droits et des devoirs. Cette redevabilité est à mettre à l'honneur de la République démocratique du Congo pour doter ses services des outils de gestion, mais également d'avoir du personnel hautement qualifié.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
ODD, objectif de développement durable, le rendez-vous est respecté. Dans cette édition, nos deux experts du CNUD, Jean Amissi et Idesbald Chinamula, vont faire le point de l'ODD 7, un objectif relatif à l'énergie électrique. Vous allez en savoir davantage dans cet entretien de nos experts avec Honoré Missinga Kalala.
Jean Amissi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Missinga.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
C'est pour la 7e fois que nous nous retrouvons autour des ODD. Donc, nous allons parler de l'ODD 7, qui est l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Jean Amissi, cet ODD tourne autour de 4 dimensions, fiabilité, durabilité, modernité et coût abordable. Qu'est-ce qu'il faut entendre par service énergétique fiable?
Il faut d'abord rappeler que l'ODD 7, c'est un ODD extrêmement important. Nous l'appelons ODD transformationnel, c'est-à-dire c'est l'ODD qui va conditionner la réussite des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est un ODD qui a des effets à la fois sur l'ODD, par exemple, 3, santé, éducation, croissance inclusive, etc., etc. Il faut très rapidement d'abord rappeler que la RDC, c'est un pays qui regorge d'un potentiel énorme. Son potentiel électrique est évalué à 100 000 MW, ce qui représente à peu près 47% du potentiel africain, 13% du potentiel mondial, mais seul 3% de ce potentiel est actuellement exploité. Vous comprenez tout de suite que la question de fiabilité, c'est que l'électricité doit être d'abord en quantité suffisante, avec une tension adaptée. Mais malheureusement, le grand problème qui se pose, c'est que nous avons d'insuffisance des capacités. Les installations de transport d'électricité sont vétustes. Les réseaux de distribution d'électricité sont également vétustes, ce qui rend l'offre d'électricité non viable. Et ce manque de fiabilité a énormément d'implications. Et l'implication la plus importante est celle que les entreprises connaissent. C'est qu'aujourd'hui, 40% des capacités de production des entreprises ne sont pas utilisées. Pourquoi ? Parce que l'électricité n'est pas en quantité suffisante et n'est pas fiable. Et cette question de fiabilité occasionne une perte de 7% du chiffre d'affaires.
Idesbald Chinamula.
L'énergie, on en a dit, c'est un ODD transformationnel, mais il faut noter également que c'est un ODD qui concerne l'ensemble des pays du monde entier. Donc cet ODD ne concerne pas que le pays en voie de développement. C'est là qu'on en revient à la question de la fiabilité, la durabilité, la modernité, ainsi de suite. Aujourd'hui, 80% de l'énergie qui soutient l'économie du monde est une énergie qui n'est pas fiable, qui n'est pas durable, dont les sources de production sont à la base justement du changement climatique. Et donc, lorsqu'on parle d'une énergie fiable, une énergie durable, des services énergétiques modernes, c'est donc par opposition au système actuel qui est constitué, comme je l'ai dit, à plus de 80% des énergies d'origine fossile. Il faut donc des sources modernes. Et on parle de durable parce qu'on va voir tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Nous avons les solaires, nous avons l'hydroélectricité, nous avons les éoliens et puis nous avons tout ce qu'on peut appeler la géothermie et bien sûr les énergies issues de la biomasse, c'est-à-dire qu'on peut utiliser avec toutes les ressources qui existent. Et lorsqu'on parle de fiabilité, on fait bien entendu allusion à ce que ce type d'énergie soit donc des sources propres.
Oui, sources propres, mais aussi il faut un coût abordable, Jean, ici.
Oui, effectivement, l'énergie, pour qu'il soit accessible au grand public, il faut qu'il soit du coup abordable. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est seulement 16% de la population congolaise qui a accès à l'énergie, avec évidemment des fortes disparités entre les villes et les campagnes. Et dans nos campagnes aujourd'hui, c'est seulement 1% de la population qui ont accès à l'énergie. Et si vous faites les calculs, 16% de la population congolaise, ça fait 13 millions. Pour donner l'énergie à 80 millions d'habitants à l'horizon 2030, il faudrait que chaque année, que 7 millions de Congolais aient accès à l'électricité.
Jean Amissi, qu'est-ce que la République démocratique Congo doit faire pour atteindre l'ODD 7, l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable?
Comment faire pour attirer des investissements massifs en vue d'accroître l'offre énergétique en République démocratique du Congo? Il y a trois axes essentiels. Et ces axes, je crois, ils sont déjà repris dans la loi portant libéralisation du secteur d'électricité. Le premier axe, c'est de mettre en place un cadre de gouvernance et réglementaire robuste et incitatif à l'investissement privé. Comment mettre ce cadre de gouvernance? Il y a trois choses essentielles pour avoir un bon cadre de gouvernance. Le premier, c'est d'avoir un système de tarification d'énergie qui réconcilie la viabilité financière des investissements et l'abordabilité. Deuxième, il faut une vision claire des rôles du secteur public et privé. Il faut que l'État reste dans la régulation et que le secteur privé soit le producteur. Troisièmement, il faut que ce cadre de gouvernance mettent en place des conditions adéquates et attractives pour mobiliser les financements publics et privés. Le deuxième pilier, c'est qu'il ne faut pas rester dans des solutions énergétiques de grande envergure, des solutions INGA, grand INGA, etc., etc. Non, il faut développer des solutions énergétiques compatibles avec les contextes et les potentialités du milieu. Et je crois qu'il faut aller vers des systèmes d'électricité décentralisés et diversifiés. Deuxièmement, il faut adopter une conception évolutive du développement énergétique, c'est-à-dire il faut diversifier le bouquet. Là où il est possible de faire l'éolienne, on fait l'éolienne, comme dans le Bas-Congo. Là où il est possible de faire la biomasse, on fait la biomasse. Là où il est possible de faire l'hydroélectricité, on le fait. Et le troisième pilier, c'est qu'il faut, face à l'insuffisance d'investissement, mais aussi au risque pays élevé pour attirer les investissements privés, il faut développer des partenariats solides, publics et privés, mais aussi des partenariats régionaux. Parce que si vous voulez adresser la question de la faiblesse de la demande, si vous voulez investir dans des grosses infrastructures qui vont exiger des montants élevés, et des retours sur investissement élevés, il faut que la demande soit suffisante. Mais pour avoir cette demande, il faut développer ce qu'on a dit, des solutions qui soient des solutions régionales face à l'étroitesse du marché. Deuxièmement, il faut démultiplier des partenariats publics-privés entre les provinces et les secteurs privés pour développer des centrales à vocation provinciale et locale. Voilà les trois piliers importants sur lesquels il faut faire. Un, mettre en place un cadre de gouvernance réglementaire robuste et incitatif. Deux, développer des solutions énergétiques compatibles avec les contextes et les potentialités du milieu. Trois, développer des partenariats solides, publics et privés, et des partenariats régionaux.
Quel rôle peut jouer le PNUD dans la réalisation de cet objectif?
Oui, effectivement, le PNUD a commencé déjà par la sensibilisation, les plaidoyers pour montrer effectivement qu'il faut une politique robuste, une politique qui réponde aux besoins du pays. Donc le PNUD a aidé le ministère de l'énergie et bien sûr au niveau du gouvernement de façon globale à sortir les potentiels que les pays disposent et montrer comment ces potentiels est décentralisé sur l'ensemble du pays. Nous avons mentionné que chacune des 26 provinces de la RDC dispose d'un potentiel important en énergie et ce potentiel est largement diversifié. Et donc l'idée ici, c'est maintenant aller au-delà de la cartographie du potentiel existant du pays pour maintenant développer des outils de politique. Là, nous sommes encore très engagés en dialogue des politiques avec les gouvernements pour développer ce que nous appelons l'électrification rurale. Il n'y a pas que le PNUD, mais bien sûr, en association avec d'autres partenaires, on travaille ensemble pour effectivement aider à la mise en place des mesures d'application qui vont permettre à opérationnaliser la loi libéralisant les secteurs de l'électricité. Mais au-delà de ça, nous travaillons également avec d'autres partenaires du développement pour aider les gouvernements à mettre en place l'environnement adéquat qui permette justement d'inciter l'investissement privé. Et donc aujourd'hui, le programme des Nations Unies pour le développement accompagne le ministère de l'Énergie dans un programme fédérateur que nous appelons promotion de la petite et micro-hydroélectrique à l'échelle de l'ensemble du pays. Et ce programme aujourd'hui tend justement à prôner, à montrer des exemples de réussite en termes de la petite hydroélectricité, c'est-à-dire en termes de solutions locales à l'échelle de chaque territoire, de chaque village. Nous sommes contents de constater qu'il y a des applications qui marchent, mais dont on n'est pas suffisamment informé. Et donc nous sommes aussi en train de vouloir communiquer sur toutes ces solutions locales que les communautés mettent en place elles-mêmes en partenariat avec peut-être le secteur privé, communiquer là-dessus pour montrer qu'il y a au-delà du secteur minier et au-delà de l'agriculture que la RDC offre un marché important dans le secteur énergétique et qu'il y a moyen de faire du business dans le domaine de l'énergie.
Jean ici, merci beaucoup.
Merci.
Idesbal de Chinamula, merci.
C'est moi qui vous remercie.
En plus bref, volet développement, le territoire de Kasongo, désormais relié à la ville de Kindu, nous sommes dans la province du Maniema. Le pont Boubalé, détruit depuis plus de 2 années, a été remis en service grâce au Fonds international de développement agricole dans le cadre du projet intégré pour la réhabilitation de l'agriculture dans la province du Maniema, Piram en sigle. L'ouvrage, long de 39 mètres, a été financé à hauteur de 350 000 dollars américains du Fonds international de développement agricole FIDA. Cette institution spécialisée de l'ONU a financé plusieurs autres projets visant le désenclavement et le développement agricole de cette province. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de réfugiés, le HCR, par l'entremise de sa représentante régionale, Mme Anne Encontre, a décerné jeudi des bourses d'études universitaires à 38 réfugiés, dont 12 femmes et jeunes filles. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette agence onusienne ici à Kinshasa, en présence du personnel et des parents ainsi que des connaissances des bénéficiaires. Rendons-nous en Ituri, où l'insécurité grandissante demeure la principale cause de l'augmentation du taux de viol dans cette province. En effet, au cours de ce mois de juin, une dizaine de victimes de viol a été enregistrée dans les territoires de Djougou et dont les auteurs seraient les assaillants, a rapporté mercredi la coordonnatrice de l'ONG Sophie Paddy à l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle commise en temps de conflit, une journée célébrée le 18 juin de chaque année.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le jeudi 20 juin dernier, la communauté universelle a célébré la Journée internationale de réfugiés. Selon le HCR, un demi-million de réfugiés vivent dans des conditions difficiles en RDC, pendant que la plupart de plus de 800 000 réfugiés congolais installés à l'étranger manifestent le désir de rentrer au pays. Madame N. rencontre la représentante régionale du HCR. Elle s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Madame Anne Encontre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Commençons par ces communiqués dans lesquels le HCR félicite le peuple congolais pour son hospitalité aux réfugiés. On sait que les familles d'accueil sont soumises, elles aussi, aux mêmes difficultés de survie que les réfugiés. Que fait alors le HCR pour accompagner aussi ces familles d'accueil?
Effectivement, monsieur, parmi les réfugiés qui sont arrivés ici en République démocratique du Congo, surtout les réfugiés qui sont arrivés récemment, six dernières années, la moitié, ils vivent dans les zones d'accueil, pas dans les camps de réfugiés, mais dans les sites à côté des communautés hôtes. Ils vivent ensemble et souvent au milieu rural. Ces réfugiés, ils viennent du Burundi, République centrafricaine, le Soudan du Sud, et bien sûr, nous avons les Rwandais qui sont arrivés beaucoup plus longtemps, il y a 20 ans. Nous avons pris les différentes mesures ensemble avec les autorités locales, mais aussi nationales et nos partenaires. Par exemple, dans les zones d'accueil des réfugiés centrafricains, nous avons construit les classes d'école, nous avons creusé le forage. Et nous avons aussi reconstruit les centres de santé. Dans la plupart de temps, ils vivent ensemble, ils profitent ensemble et ils partagent les services avec les réfugiés.
Nous venons de parler de ces réfugiés. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous présenter la situation générale des près de 600 000 réfugiés qui vivent en RDC?
Pour la plupart, ils vivent dans les zones à la frontière avec le pays d'où ils sont venus, et ils vivent dans des situations qui sont vraiment difficiles, on peut dire. Heureusement, le nombre de réfugiés au Congo, il reste relativement stable pour le moment, donc autour de 1,5 million de réfugiés, mais à l'exception des réfugiés du Sud-Soudan, ils sont venus il y a quelques années, et le nombre de réfugiés sud-soudanais, ils ont augmenté cette année.
Combien ils sont-ils?
Ils sont à peu près 100 000 réfugiés.
Une présence comme celle-là demande beaucoup de défis. Comment vous faites pour gérer ces défis, des opérations notamment pour la survie de ces réfugiés sud-soudanais?
Comme je disais tantôt, ils sont arrivés dans les zones vraiment reculées. Il n'y a pas beaucoup de routes. Nous avons peu d'infrastructures. Donc avec les autorités, nous utilisons les finances qui sont pas assez surtout, mais en même temps nous sommes vraiment conscients que les ressources qui sont disponibles, nous utilisons pour le bénéfice de la population et les réfugiés.
Alors madame, vous ne vous occupez pas seulement des réfugiés qui sont ici en République démocratique du Congo, mais aussi de réfugiés congolais qui sont dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale. Et quel est l'état des lieux de la situation de ces réfugiés?
Je suis la coordinatrice régionale pour les situations de Congolais qui se trouvent plutôt dans 7 pays autour de la République démocratique du Congo. Nous avons cette année plus de 800 000 réfugiés congolais qui se trouvent, qui demandent asile dans les pays voisins. Surtout au Uganda, le Tanzanie, Rwanda et le Burundi. Les réfugiés, ils ont commencé à exprimer le désir de rentrer chez eux. Et nous avons en train d'organiser une autre réunion tripartite pour les réfugiés qui se trouvent en Angola. Il y a quelques semaines, ils ont manifesté qu'ils voudraient rentrer chez eux pour reconstruire leur pays avec le nouveau gouvernement et avec le peuple congolais.
Et comment l'ASR s'y prépare-t-il?
Nous avons, avec le gouvernement de Congo et les pays respectifs, tenu des réunions tripartites pour discuter et planifier les modalités pour le retour. Et
pour terminer, madame, aujourd'hui c'est le jeudi 20 juin, c'est la journée de réfugiés. Un message pour les réfugiés qui vivent en République démocratique du Congo et pour les familles d'accueil.
Chaque fois que je rencontre les réfugiés, je suis vraiment épatée par leur courage, leur résilience, pleine d'espoir. Je voudrais ajouter que le peuple congolais, ils sont vraiment généreux, hospitaliers, ils acceptent de partager le peu qu'ils ont. Donc je dis bravo et merci.
Le 14 juin dernier, le sous-commissariat de la police nationale congolaise PNC du quartier Lac Vert à la périphérie ouest de Goma en Nord Kivu a réceptionné de la police de la MONUSCO UNPOL en conteneur de ce sous-commissariat électrifié. La cérémonie s'était déroulée au bureau du quartier en présence des autorités de la PNC et de la MONUSCO. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Les opérations ont commencé depuis le 23 octobre de l'année dernière. Avant le quartier Lac Vert, c'était le quartier Ndosho et Majengo à avoir bénéficié de ces conteneurs modifiés et électrifiés en panneaux solaires. Ces différentes dotations sont les fruits des bonnes relations entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise. Elles entrent surtout dans le cadre du travail de rapprochement entre la police nationale et les populations locales. Moussa Sangaré, chef du secteur UNPOL Goma, revient ici sur les motivations et les objectifs de cette dotation.
Le problème de ces postes résidait du fait qu'ils n'étaient pas éclairés et pendant la nuit, les agents de police en garde se retrouvaient dans l'obscurité totale et cela favorisait des attaques par les malfaiteurs. En ce qui concerne les objectifs généraux, cette électrification vise à améliorer les conditions de travail des PNC et la sécurité des populations riveraines, souvent victimes d'attaques nocturnes, et à renforcer leur capacité dans le cadre des interventions en cas d'appel de détresse. La promptitude dans les interventions. Elle vise également à identifier les zones criminogènes pour un meilleur plan de sécurisation. Quant aux objectifs spécifiques, elle vise à maîtriser le concept CCO de la SOLIC et les numéros verts gratuits.
Signalons que les postes de police renforcés en conteneurs modifiés et électrifiés se trouvent dans les quartiers les plus insécurisés de la ville de Goma.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au général Bernard Comines en rapport avec l'escalade de la violence en Ituri, question posée le 12 juin dernier à partir de Kinshasa.
Je m'adresse au général Comines. Prenant vous dit ça, je suis de la RTNC. Le général Comines, commandant en force MONUSCO, il est vraiment inquiet de la nouvelle escalade de violence perpétrée par les groupes armés, surtout dans la région de l'Ituri, et surtout de la conférence sur la paix qui est envisagée pour cette province si la MONUSCO est-elle favorable à l'organisation d'une telle conférence pour mettre un point final, s'il faut le dire, à cette escalade de violence.
Merci, je vais faire bref. La MONUSCO a été associée depuis maintenant plusieurs mois sur un projet de résolution de la crise en Ituri, en particulier tout ce qui tourne autour du FRPI. Et nous avons travaillé d'arrache-pied avec les autorités de la République démocratique du Congo, le gouvernement, pour arriver à trouver ensemble les voies et moyens de stabiliser cette situation. Les choses sont un petit peu aujourd'hui en attente, puisqu'il y a des autorités qui ont changé ou qui pourraient changer. Donc nous suivons ce dossier avec une extrême attention. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi la violence dont les communautés Hema et Lendu sont victimes, toutes les deux, aujourd'hui. Et je peux vous dire que nous avons même été l'objet de tirs contre nos hélicoptères et contre une patrouille pas plus tard qu'hier. Donc nous regardons cela avec les militaires congolais que nous avons avec nous, à côté de nous, ensemble, pour pouvoir identifier les causes de cette violence. La force seule ne réglera pas le problème. La résolution d'une telle violence passe par la communauté, les communautés et l'engagement des autorités de tout faire pour permettre aux autorités, aux localités et aux populations de trouver une vie sociale et économique digne et paisible.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Pour la semaine qui commence, la dernière de ce mois de juin, une date à retenir avec un double événement. Le 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, également journée internationale contre la torture. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission du magazine des Nations Unies. À la supervision, Martin Seboujangoué, à la coordination Jean-Pierre et Lali Koko. Honoré Missingakalala a été au reportage et à la réalisation. Moi, Babel Pongomassimango, je vous l'ai présenté avec le concours technique de Polydor Basunga. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiocapi.net. Rendez-vous pris dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre magazine. Ciao, ciao.